envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Bon, comment est-ce qu'on fait? Ring, ding, 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 ding. Ah, il y a Nicolas qui arrive. Bonjour Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Et bonjour à vous tous et à vous toutes. On est ravis de vous retrouver ce dimanche matin.
Vous avez un sacré pote à côté de vous.
Vous avez
là.
Vu, pour partager ce moment de joie et de bonne humeur. Un dimanche magnifique nous accompagne, donc on espère que vous êtes en pleine forme pour nous suivre. Oui, merci Florian, je suis bien entourée ce matin, j'ai deux charmants hommes, un qui est très sympa à mes côtés.
Un mannequin.
Voilà.
C'est parce qu'il dit rien, c'est pour
exactement.
Ça qu'il est sympa.
Donc, on est ravis d'être avec vous et vous allez pouvoir jouer avec nous, bien évidemment, en participant à nos différents jeux par téléphone. Il y aura le défi également. Et puis, on va parler de moto, on va parler du Dakar, de rallye avec vous, Nicolas Monin. Vous nous faites l'amitié d'être avec nous ce matin. Vous allez bien ?
Je suis très bien, oui, super.
Eh bien, c'est parfait. Allez, on attaque tout de suite avec cette question. Ben, comment vous êtes venue cette passion pour le rallye moto ?
Bon, j'ai toujours baigné quasiment dans la moto en étant petit parce que mes parents avaient un commerce, un restaurant, des bars à café, puis qui était très fréquenté par des motards. Et puis on a toujours vu des motos à gauche à droite. Mon père en a eu un petit moment en fait. Et puis on a pu profiter avec mon petit frère aussi de pouvoir partir avec mon père faire des petits tours. Puis c'est vrai que ça donne un esprit en fait de des envies et puis d'un esprit de liberté. Il n'y avait pas besoin de casque encore à l'époque. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis c'est toujours quelque chose qui est resté, en fait, cette passion de la moto. Et puis, vu que j'ai une grande envie justement de liberté et de grands espaces, pour moi, c'est des réelles émotions, en fait. Et puis, c'est vrai que le Dakar, bon, on a vu passer à la télévision des kilomètres et des kilomètres. Et puis, c'est vrai je suis fan de rallye depuis très longtemps. Et puis, c'était vraiment une grosse envie chez moi de participer à ce type d'épreuve et donc au rallye mythique qu'est le Dakar.
Alors donc, vous en êtes à votre 10e rallye. Vous êtes pilote neuchâtelois de rallye aux origines jurassiennes. En Suisse, c'est quand même pas évident que de s'entraîner parce que ben voilà, on n'a pas...
On n'a pas de sable.
De sable, on n'a pas de dunes.
On n'a que du goudron et de l'herbe.
J'ai beau en ramener du désert, du sable, mais c'est toujours pas suffisant en fait pour en faire une piste, c'est clair. C'est vrai que l'entraînement, c'est assez compliqué. Bon, on a tout ce qui est pour l'apprentissage technique, pour faire du trial ou du motocross par exemple, donc c'est des bases essentielles, donc là on a quand même quelques coins quand même en Suisse pour pratiquer. Sur le rallye raid même, effectivement c'est difficile. En Europe il existe quelques courses, mais il n'y a jamais d'off-road par exemple, c'est-à-dire de dunes ou de sable. Donc c'est vrai qu'on apprend sur le tas en pratiquant le rallye raid.
On va tout de suite passer à notre premier... Vous ne me faites pas... Enfin, écoutez-moi.
Mais il vous écoute attentivement, je peux vous le dire.
En tout cas,
suivez-nous en images sur rtn.ch, vous verrez le mec qui est à côté de Claire, c'est incroyable. On passe au premier jeu ?
On passe au premier jeu, volontiers.
L'air de jeu, le défi.
Le défi, ce sont les photos que vous nous envoyez pour tenter de remporter ce défi. À la clé, une carte cadeau Manor. Il faut bien sûr... nous envoyer des photos par rapport au thème choisi aujourd'hui. Alors, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dévoiler le thème du défi de ce dimanche ?
Alors, c'est clair que ma passion, c'est la moto avec l'esprit de liberté. Donc, si on arrive à réunir, en fait, ces deux éléments, en fait, dans une image, oui, ça me parle. Moto et liberté.
Voilà, alors à vous de faire...
Si vous êtes motard, il y en a dans le canton, hein, ici.
Oui, alors à vous de faire travailler un petit peu votre imagination. Est-ce que, je ne sais pas, une fois vous avez été faire un peu de moto dans le sable, au bord de la mer, ou je sais quoi, eh bien, n'hésitez pas. Ou alors, ça peut être aussi sur une route un peu déserte, ou vous avez fait un col, enfin... À vous de faire travailler votre imagination et surtout eh bien, de nous envoyer la photo qui vous permettra peut-être de remporter cette carte cadeau.
Et vous envoyez vos photos au 079
809
2020. C'est aussi simple que ça, mais on vous donne un exemple. Hein, des photos, là, on va vous en montrer une. Là, vous faites, Nicolas, manger la poussière à ceux qui sont derrière. Hein.
Oui. Oui, alors en fait, la petite spécificité, c'est vrai qu'en rallye raid, je me débrouille pas trop mal en navigation. Et puis, je me trouve souvent en fait en tête de colonne avec quelques motards derrière qui me suivent. Notamment sur la dernière étape du Dakar 2022, j'ai un pilote qui m'a suivi durant toute l'étape. Donc il a rien navigué, il a fait que me suivre.
Ça c'est frustrant.
Non, 2 kilos de sable dans les bottes.
Non,
il y a un esprit, cet esprit d'équipe.
D'équipe, oui, tout à fait, de camaraderie. Donc ouais. Non, il n'y a pas de problème avec ça. Non.
L'air de jeu, rediffusion.
Et l'air de jeu qui parle de moto ce matin. Alors, nous envoyez vos photos, évidemment. On a reçu une jolie Vespa dans le gravier. Ça peut être sympa. J'irai pas faire du cross avec une Vespa, mais enfin bon, vous nous envoyez vos photos pour le défi qu'on vous a lancé tout à l'heure au 079 809 2020.
Et notre invité, c'est toujours Nicolas Monin, qui est pilote neuchâtelois de rallye moto, origine jurassienne, précisons-le. Et vous allez nous expliquer maintenant votre participation à ce Dakar. Est-ce que c'était une première ou c'est quelque chose dont vous rêviez? Parce que, alors, c'est vrai que c'est une course mythique, hein, le Dakar, qui s'est déroulé d'ailleurs cette année, enfin ça fait déjà quelques années, qui s'est déroulé en Arabie Saoudite.
Oui, pour la 44e édition, effectivement, et la 3e édition en Arabie Saoudite. Donc, c'est clair que c'était l'ancien Paris-Dakar, donc que beaucoup de monde connaît et qui descendait jusqu'à Dakar. Ils ont gardé le nom Dakar parce que finalement, c'est devenu une marque. Hein, c'est quelque chose de aussi très commercial, en fait. Aussi,
mais voilà, c'est ça, il y a le business.
Oui,
business.
Exact. Qui est parti en Amérique du Sud. J'ai participé à une édition en Amérique du Sud en 2016, mais qui a tourné, en fait... tourner mal, très très mal, avec une grosse chute. Et puis, je me suis fracturé deux côtes, deux vertèbres, la main gauche. J'ai encore continué pendant 900 km. Ils m'ont arrêté à 4600 mètres d'altitude. Donc, c'était vraiment le voyage en enfer, en fait, sur le Dakar 2016. Alors que sur le Dakar 2022, c'était le voyage, je ne peux pas dire au paradis, quoi, mais c'était tout autre chose. Donc, j'ai vraiment bien pu profiter. Donc j'ai participé en janvier en fait à cette course, donc j'étais très motivé, bien sûr. Quand on parle de participation au Dakar, c'est vraiment de terminer la course, c'est ça l'objectif.
Alors quelles sont les spécificités, parce que ben voilà, en Arabie Saoudite, que ce soit aussi en Amérique du Sud ou alors en Afrique, c'est pas tout à fait le même genre de terrain, et pour le pilotage c'est comment?
Le pilotage, en quelque sorte, il est assez semblable. C'est vrai que
on doit
s'adapter. Quand on est sur piste rocailleuse, piste sablonneuse ou dans les dunes, finalement, c'est des choses qu'on rencontre de part et d'autre. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, il y a des dunes qui sont très très compliquées, notamment au Pérou. C'est une spécificité par rapport à certaines régions. Après, le gros élément c'est la météo, en fait, c'est le climat. En Amérique du Sud, c'est sur la période d'été, donc il peut faire des chaleurs énormes, hein, et puis aussi des parties très pluvieuses aussi. C'est assez délicat, en fait, au niveau climatique en Amérique du Sud en janvier.
Et au Moyen-Orient, à cette époque?
Alors, on est sur une période plutôt hivernale, on est dans l'hémisphère nord, et puis donc du coup, on n'a pas les grosses chaleurs. On a même eu cette année, en fait, particulièrement froid sur la première semaine. Donc, quasiment 5 degrés, en fait, le soir. Bon, sur la journée, c'est un peu plus supportable, 10-15, et puis, en fait, les températures sont un petit peu montées, mais on n'a pas été dans les 30 degrés, par exemple. Donc, en fait, la problématique, ça a été le froid sur la première semaine pour les liaisons, notamment les liaisons avant les spéciales ou après les spéciales, où il faut vraiment bien s'habiller pour supporter.
Bah, ça représente combien de kilomètres en tout ce...
C'est un Dakar en fait à 8000, passé 8000 kilomètres. Et puis la moitié quasiment en liaison et l'autre moitié en spécial. Donc les spéciales, les liaisons peuvent par exemple présenter 200-300 kilomètres. C'est très très long. On en a même eu une de 600 kilomètres sur le premier jour, mais c'était un peu spécial. Donc c'est assez compliqué. Je veux pas dire c'est aussi compliqué que de faire la spéciale elle-même, mais c'est pas simple.
Ça doit pas être évident.
L'air de jeu, rediffusion. L'air de jeu, jusqu'à midi, avec Claire et Florian.
Et jusqu'à midi, on vous parle évidemment avec Nicolas Monin, qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans ce studio de moto, de sable. Et on a Patricia qui va manger le sable peut-être aussi. Bonjour Patricia.
Bonjour Patricia, comment allez-vous?
Très, très bien, merci.
Est-ce que
effectivement, je vais manger le sable.
Est-ce que la moto, c'est une de vos passions? Est-ce que vous aimez regarder, je ne sais pas, peut-être des courses de moto ou des rallyes?
Oui,
des choses...
oui, j'aime bien et j'en ai fait dans mon jeune âge avec mon mari moi-même.
Mais vous êtes toute jeune.
Non.
Vous aviez quoi comme une grosse cylindrée?
Non, on avait une Yamaha 750.
Bah, c'est déjà pas mal, hein, Nicolas.
Oui, c'est pas mal.
C'est pas moi qui la conduisais, c'était mon mari. Hein.
Ah, voilà. Oui, moi aussi, je préférais être passagère que de conduire.
Voilà, tout à fait.
Et puis maintenant, elle a troqué sa moto contre la tondeuse à gazon. C'est pas le même bruit.
Ah, oui, non, exact.
Oui, on peut dire ça, oui.
Patricia, vous avez choisi ce jeu. Le voici, le voilà.
L'air de jeu, le blind test.
Le blind test, ce sont des chansons où on parle de désert. Il faudra en tout cas me donner deux bonnes réponses pour remporter cette carte cadeau qui est un bon pour aller manger de la cuisine thaïlandaise au Lobby Bar à Neuchâtel. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Alors, voici ma première question, puis ensuite on écoutera l'extrait. Ça vous va comme ça?
Oui, tout à fait.
Quel chanteur a connu le succès en 1979 avec ce titre?
Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire, j'ouvre les yeux bandés.
Pip, Patricia.
Non.
C'est un prénom composé. Non, ça vous dit rien.
C'est un pas Goldman, Jean Goldman. Goldman.
Alors, quel chanteur entend-on dans cet extrait qui s'intitule Desert Rose?
Connu lui, Patricia.
Alors c'est un chanteur britannique qui l'interprète également en duo. L'autre chanteur c'est Cheb Mami, mais qui est ce chanteur britannique?
Non, je connais les chansons mais pas les.
Si je vous dis qu'il a fait partie d'un célèbre groupe à qui l'on doit Roxanne.
oui, ça me dit quelque chose.
Donc voilà, je peux pas faire plus.
Elle se rapproche du désert. Hein.
Quand t'es dans le désert. Bon, oui, 1997, oui. Quelle chanteuse indonésienne a sorti cette chanson?
C'est le soleil de brûle, je prierai qui tu voudras. Pour que tombe la nage au Sahara.
En plus, elle est jolie.
Ouais, très jolie. On la voit beaucoup à la télévision. Dans des émissions de légerie. Voilà, la neige au Sahara, ça a été un carton pour cette chanteuse indonésienne. Ça vous dit rien?
Je patauge malheureusement.
Oui, vous pataugez dans le sable, hein, pas dans la foule.
Vous êtes dans le désert et puis vous allez vous faire...
Ça m'a goûté, mais alors quelque chose.
Ah ouais, là vous êtes embourbé dans le sable. Et puis en plus de ça, il y a un méchant monsieur que Claire a à côté, il a un fouet. Voilà.
Dites-moi, Patricia, parmi ces chansons qu'on a entendues, est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez écouter dans son intégralité? Est-ce que vous voulez, quand t'es dans le désert, est-ce que vous voulez Desert Rose ou est-ce que vous voulez La Neige au Sahara?
La Neige au Sahara.
Ah, voilà, oui, elle est belle, cette chanson.
Je suis contente parce que c'était aussi un peu ce que je pensais. Alors, on va revenir sur ce questionnaire. 1979, la chanson « Quand t'es dans le désert », c'était Jean-Patrick Capdevielle.
Ah non, je ne comprenais pas.
Ça ne vous dit rien. Ah là, il a fait un carton avec cette chanson.
Oui, mais vous savez que j'étais ado, j'étais pendant des années folles là. Hein.
Oui, mais quand même. Mais ça passe dans Vintage. Hein. Si vous écoutez Steve, il passe cette chanson dans Vintage.
D'accord.
Ensuite, le chanteur qui interprète Desert Rose avec Cheb Mami, c'est Sting.
Ouais, je ne connais pas.
Oh, le groupe Police.
Ah oui.
Eh bien, Sting, c'était le chanteur de Police. Ah. Et donc, la Julie Angoon, qui avait connu un énorme succès en 1997 avec La Neige au Sahara. Écoutez, Patricia, on a passé un chouette moment avec vous. Merci pour votre bonne humeur. Et vous aurez tout le loisir de rejouer avec nous un prochain dimanche. Au revoir,
merci,
Patricia.
Merci, vous aussi. Beaucoup de soleil.
Merci.
Et vous-même, Nicolas, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Qu'est-ce que vous aimez comme musique?
Ah, c'est un peu éclectique, mais c'est vrai que je suis assez fan de AC/DC ou de Scorpion, notamment.
Scorpion qui vient de ressortir un album.
Oui, exactement. Mais ça m'arrive aussi d'écouter de la musique classique aussi. Donc, j'aime un peu tout.
Cet océan, je...
j'oublie les jours d'avant.
L'air de jeu. Rediffusion.
On revient au Dakar, on revient dans le sable, avec les petits scorpions dans le sable qui bougent dans la tente la nuit. Ça vous a déjà arrivé, Nicolas, d'avoir une rencontre impromptue de ce genre-là ?
Heureusement, non. Heureusement, non.
Ça marche vite, hein, ces petites bêtes.
Ouais, c'est très rapide.
Nous sommes donc toujours avec le pilote neuchâtelois de rallye moto aux origines jurassiennes, Nicolas Monin. Donc, on l'a dit, hein, ce rallye, ben, ça se prépare des mois et des mois. Quelles sont un petit peu les contraintes pour être au top pour le jour J ?
Faut que la poste livre son colis.
Alors, j'ai eu un problème comme ça aussi, hein, d'ailleurs. Mais ça, c'est encore une autre histoire. En fait, le Dakar, c'est très long. C'est deux semaines de compétition avec une journée de repos au milieu.
C'est intense, hein.
C'est très intense avec aussi très peu de sommeil à disposition parce qu'on fait beaucoup de kilomètres. Donc, on part très, très tôt le matin. Et la première moto, elle peut partir à 4h30 du matin. Donc, se lever à 4h, 5h, voilà, c'est un peu le régime qu'on subit en fait sur place.
Mais pas de grasse matinée donc.
Non, ça. Et puis on dort très peu parce que c'est vrai qu'on se couche plutôt à 11h qu'à 8h. Hein. Donc, et puis après, il faut encore arriver à dormir avec le froid. Donc je parlais de 5 degrés qu'on a eu sur la première semaine. Donc s'il fait très froid, c'est pas évident de trouver le sommeil à ces températures-là. Et puis il y a encore le bruit. Même si on met des tampons dans les oreilles, il y a les V8 qui passent à côté. Il y a juste une sorte de voiture qui ne me dérangeait pas la nuit, c'était les Audi. Vu que c'était des véhicules hybrides, on entendait juste un zzz qui passait. Et puis ça ne nous dérangeait pas, mais sinon autrement, tout le temps très bruyant en fait. Donc c'est pas évident de dormir sous le Dakar et puis, pendant deux semaines. Donc c'est un régime assez particulier. D'ailleurs, quand on revient à la vie normale, on a un peu du mal à se réhabituer.
Et je pense.
Ouais, exactement.
Vous êtes dans un espèce de camp de base qui est quand même fermé, qui est surveillé. Ça bouge toute la nuit, en fait.
Oui, ça bouge énormément parce qu'en fait, je parlais des motards qui partent très, très tôt le matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bon, il y a encore les voitures après qui vont partir derrière. Il y a encore les camions. Donc, c'est tout un décalage dans le temps. Et puis, en fait, ce décalage dans le temps, on le retrouve sur toute la journée et toute la nuit vu que les camions, ils rentrent très tard de nuit pour certains. Donc, et puis, en fait, il y a les mécaniciens qui vont travailler sur les voitures, par exemple, ou sur les motos et qui vont aller les tester pour voir si la réparation elle est correcte, si ça fonctionne. Donc ça va, c'est toujours ça bouge beaucoup. C'est 3000 personnes sur un bivouac du Dakar, donc ça fait beaucoup de monde. Et puis pour revenir en fait sur la préparation, on part tôt le matin, on rentre peut-être à 5, 6 heures, voire peut-être 7 heures le soir. Donc ça fait des très longues journées en moto, 700, 800 kilomètres par exemple. Et puis, il y a quand même une fatigue physique qui s'installe. Et puis, pour la préparation, en fait, il faut une préparation physique le plus poussé possible. Ce que j'ai réussi à ce que j'ai fait et qui m'a bien réussi en fait sur ce Dakar.
Donc, est-ce qu'on travaille autant le mental que le physique aussi?
Dès que vous faites une préparation physique qui est relativement dure, automatiquement vous faites du mental aussi avec. Moi, je me suis lancé plutôt dans le trail, donc la course à pied en montagne. J'ai fait 1150 km en 17 mois de préparation. J'ai fait aussi 230 entraînements de musculation aussi, parce qu'il faut aussi gainer le corps, avoir de la force physique. Ça, c'était l'objectif principal, d'être super bien physiquement pour pouvoir être concentré sur toute la journée, parce que le risque d'accident, c'est un risque d'attention, en fait, principalement. Et puis, on fait vite une erreur. Il faut être très attentif, en fait, quand on roule en plein désert. Tous les dangers ne sont pas signalés. Et puis, physiquement, il faut bien être là. Quoi.
Et puis, dans le sable, ça ne doit pas être évident quand même. Hein.
Ça peut être compliqué. Sur certaines spéciales, je ramène pas mal de sable dans les bottes.
D'ailleurs, on en a sur la table.
Il y a un jour, Nicolas, il y a un jour dans l'année ou dans une semaine où vous faites 0 km.
Bonne question. Je cherche. 6 à 8 entraînements par semaine. Donc, pour une préparation. Donc, c'est beaucoup. Donc, effectivement, je suis toujours en activité. Puis, quand c'est pas de l'activité physique, c'est le reste. C'est la recherche et développement qu'on a avec la chez ARC. C'est la recherche de finances. C'est toute la partie aussi administrative, préparation. J'ai une double vie, si c'est pas une triple vie.
L'air de jeu, rediffusion.
L'air de jeu qui vous parle aujourd'hui de moto, de Dakar, de course dans les sables avec évidemment Nicolas Monin qui est avec nous ici dans ce studio, qui vous a lancé tout à l'heure un défi, celui de nous envoyer des photos de moto. Alors Nicolas, on peut être un peu précisé, on n'attend pas forcément vous sur une moto dans un sable, dans le sable.
Non, moi je suis d'ailleurs pratiquant un peu de toutes sortes de motos en fait, hein, aussi route.
Tourisme avec la grosse sono, les gouttes de grandes antennes.
Non, il faut quand même que ce soit un peu sportif dans l'esprit. Donc, même une moto de route, il faut que ça... Il faut que ça puisse aller vite quand même aussi. Mmh.
Voilà, comme là, par exemple, oui. On vous voit. Là, c'est lors du Dakar de cette année.
Oui, c'est le Dakar de cette année, effectivement. Donc, là, plutôt sur une piste caillouteuse. Mmh. C'était un Dakar assez sablonneux, donc c'était bien.
Mais super. Concrètement, comment se passe une journée lors d'un rallye tel que le Dakar ?
J'ai dit avant qu'on se levait très très vite.
Oui, ça on a retenu.
Il vous amène la fondue le soir aussi.
Il faut être préparé. En fait, le matin, il faut que les affaires soient préparées parce que ça va très très vite. On se lève quand même plus ou moins 2 heures avant que l'heure de départ, qui est l'heure de départ du bivouac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut pouvoir replier tente, lit de camp, les affaires pour dormir, ranger les caisses en fait dans le camion. Et il faut bien sûr s'équiper. Il faut pouvoir aller quand même déjeuner parce qu'on n'a pas beaucoup de repas durant la journée. Hein. On a le matin et le soir. Bon, on prend quelques petites choses en fait pour manger durant la journée. On se lève très tôt, on part quasiment de nuit. On reçoit en fait au départ du bivouac en fait un roadbook pour faire la liaison.
Voilà
au départ.
Le fameux. Alors je vais essayer de montrer, mais de toute façon, tout ce que l'on a devant les yeux, parce que notre studio est vraiment magnifique, hein, avec tous des objets que vous avez apportés, une plaquette du Dakar 2022. Il y a aussi. Un trophée. Et puis, alors, justement, c'est là-dessus que vous vous basez pour
aller... On dirait Jules César qui déroule le papier pour annoncer à la populace ce qu'il va y avoir dans la journée.
Moi, j'ai déjà pas trop le sens d'orientation. Si on met un truc comme ça... Alors, étape 8, Al-Dawadimi, Wadi Ad-Dawasir, kilomètre 394. Il y a des flèches. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est.
Le roadbook, donc c'est l'élément essentiel pour naviguer. Il est en format papier. Bon, ça évolue gentiment dans l'électronique aussi avec des tablettes. Donc l'élément papier qui sous une forme de rouleau pour les pilotes moto, et qui est installé dans un lecteur de roadbook, donc un boîtier en fait pour pouvoir le dérouler avec l'électricité qu'on bouge manuellement. Le principe en fait, c'est d'avoir des kilomètres, des repères kilométriques pour chaque endroit en fait où il y a du changement de direction, ou s'il y a un danger, où il y a quelque chose de spécifique dans lequel on doit passer. Donc le rouleau, il est très très long. Ça dépend donc justement par rapport au kilomètre aussi. Donc on a cet aspect kilométrique au départ, et puis après les informations la piste qu'on doit prendre. Donc ça peut être aussi un cap, c'est-à-dire qu'en pleine dune, en fait, ça sera plutôt un cap à suivre. Et puis si on est sur piste, on aura des changements de direction dans des carrefours, par exemple, avec des informations à nouveau de danger aussi, si on rencontre des dangers 1, danger 2, danger 3, par exemple. Et puis il faut piloter en conséquence. Donc c'est un pilotage à vue, mais en navigation, en fait, sous le format papier. Puis tout ce qui est électronique sur la moto, en fait, c'est plutôt des aides pour avoir les informations en fait aussi dans quel kilométrage on est ou dans quel cap on est, ou genre d'éléments. Le GPS, c'est plus un mouchard, un indicateur par rapport à la situation qu'on vit sur le moment.
Mais vous avez des indications, par exemple, si vous arrivez très vite sur une dune, j'imagine que des fois vous vous envolez, hein, ça, on saute par-dessus la dune.
Oui, ça peut être plaisant comme ça peut être déplaisant.
Si vous êtes en l'air sur votre moto et qu'il y a le gros caillou juste là où vous allez atterrir, c'est pas bien ça.
Oui, justement dans les dunes, en fait, on est justement en off-road. Donc en off-road, on est sur un danger 2 général, en fait. Donc c'est au pilote vraiment de gérer. L'aspect de la dangerosité en fait des dunes, et puis ça c'est quelque chose, il faut être extrêmement prudent. C'est-à-dire que sur les crêtes, il faut plutôt arriver à une vitesse proche de zéro ou à faible allure pour qu'on puisse en fait anticiper ce qui se trouve derrière. On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Ça peut être une dune cassée qui plonge. Donc, si vous arrivez trop vite, vous sautez, vous risquez de vous faire très, très mal.
Et puis, quand on s'enlise aussi, ça ne doit pas être évident de ressortir son véhicule.
Oui, c'est pour ça qu'il faut garder aussi de la vitesse. Donc, il faut... en moto, on va dire que la difficulté, c'est d'une très, très molle. On a rencontré aussi, justement, sur l'étape 11. Proche du fèche-fèche, c'est un terme, en fait, qui parle plutôt de sable, qui est presque de la farine tellement il est fin, puis on s'enfonce très facilement, puis qui est difficile à rouler. Donc là, il faut garder de la vitesse, c'est pas évident.
Et puis ensuite, ben voilà, vous roulez toute la journée, vous arrivez au bivouac suivant.
Oui, en fait, donc on part du bivouac, on a une liaison donc, qui peut être relativement longue jusqu'au départ de la spéciale. Au départ de la spéciale, vous avez un temps aussi à respecter pour faire cette liaison et puis pour partir en spéciale. En spéciale, on vous donne justement le roadbook pour la spéciale, 20 minutes avant de partir. Donc, vous l'installez dans le lecteur, puis vous partez en spéciale. Là, vous faites votre course, c'est là où il y a la partie chronométrée. Et puis, en fin de spéciale, vous avez à nouveau une liaison pour rentrer jusqu'au bivouac. L'objectif principal pour moi, c'était d'éviter de rentrer de nuit, parce que tout se complique énormément de nuit.
L'air de jeu, rediffusion.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Vous savez quoi, Nicolas, on va installer le GPS là, dans la voiture à Claire. Et puis, on va lui marquer kilomètre 19, elle est presque au local. Il faut tourner à droite. Il faut dérouler le papier hein, en même temps.
Il faut dérouler le papier, oui.
Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus sur RTN. Vous pouvez également nous suivre en vidéo en vous connectant sur notre site rtn.ch. Ensuite, vous voyez apparaître une petite flèche, c'est marqué direct vidéo. Vous cliquez là-dessus et vous nous voyez. Et vous voyez le beau décor de notre studio. Avec le roadbook.
Puis vous verrez le Dag Vador qui est à côté de Claire,
exactement.
On est en train de la surveiller. Là.
Et puis ce matin, on parle de rallye moto avec notre invité, le pilote neuchâtelois Nicolas Monin, qui a des origines jurassiennes et qui a participé donc cette année au Dakar 2022 en Arabie Saoudite. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Il y a un souvenir un petit peu, pas forcément réjouissant, mais une anecdote qui finalement s'est bien passée pour vous. Et vous avez d'ailleurs été récompensé. Expliquez-nous, Nicolas.
Oui, j'ai des très, très bons souvenirs. J'ai donc très bien profité de ce Dakar. Alors, il y a eu de toute façon des difficultés, ça c'est sûr. Hein. C'est une course qui est considérée comme l'une des plus dures au monde, en moto notamment. C'est très très long. Et puis en fait, j'ai eu l'étape 9 qui s'est mal déroulée. En fait, elle a bien démarré. J'ai dépassé pas mal de pilotes. Ça allait super bien. Et puis à un moment donné, la moto elle tombe en panne. J'ai arrêté un autre pilote pour ponter électriquement parce qu'apparemment c'était un problème électrique. Ce qui s'est avéré faux au final, mais j'ai utilisé quand même plusieurs fois les câbles de pontage pour redémarrer la moto.
Et qu'on a devant.
Ouais,
là, là.
Exactement. Et puis j'ai eu quasiment 100 km de galère. 100 km qui s'étaient bien passés, 100 km suivants qui ont été une vraie galère parce que je suis tombé en panne plusieurs fois dans les dunes et tout. Donc j'ai l'hélicoptère du directeur du Dakar qui m'a suivi une bonne partie de la spéciale, qui s'est posé plusieurs fois pour me dire si j'avais besoin d'aide, etc. qui m'est venu aussi en aide d'ailleurs. Donc je le remercie. Et puis au final, en fait, je me suis retrouvé en bord de piste à essayer de demander de l'aide à d'autres pilotes pour me tirer hors de la spéciale. Au bout du compte, en fait, ça s'est pas passé comme on l'entendait. Je me suis retrouvé à toute fin de spéciale à pousser la moto sur le dernier kilomètre pour pouvoir redonner mon carton de pointage pour sortir de la spéciale. Mais en fait, j'ai la moto qui était HS, j'ai dû changer de moteur suivant. La bonne surprise du soir, en fait, c'est que j'ai gagné un mérite ou un prix, un trophée de la combativité pour la journée qui s'est déroulée. Donc, c'est pas forcément le genre de prix qu'on cherche à obtenir parce que ça veut dire qu'on a eu une grosse galère. Je suis passé aussi à la télé aussi grâce à ça, mais c'est non plus pas un objectif du tout. Quand je dis je vais sous le Dakar, mais c'est pas pour passer à la télé.
Ouais, parce vous n'avez pas lâché quand signe. Même. Hein.
J'ai pas lâché, donc j'ai le Never Give Up déjà de 2016 où j'avais fait les 900 km blessés, où j'avais abandonné au bout de 900 km. après ma chute. Et puis là, à nouveau, j'ai une grosse galère. Et puis ce Never Give Up, il me colle à la peau jusqu'au bout, quoi.
Et c'est ça le trophée que vous avez remporté. On l'a pris en photo, vous le verrez sur notre galerie. Mais si vous nous suivez en direct, c'est une espèce de palmier. C'est joli, finalement.
Ouais, c'est sympa. Je veux dire, c'est un beau trophée. En fait, il a presque plus de valeur que le trophée final du finish. En fait, ça me colle aussi en fait à ma personnalité un peu.
Est-ce qu'il y a des liens d'amitié qui se créent avec les pilotes?
Oui, bien sûr. Ouais. Alors, c'est beaucoup les pilotes avec qui on roule quasiment sur la journée. Donc, les pilotes pro, on les voit très très peu. Quasiment pas. Ils partent devant, on les voit pas. Et puis en fait, on se lie d'amitié avec des pilotes avec qui on roule très régulièrement sur la spéciale. On a quasiment les mêmes vitesses. Donc principalement des. Bon, il y a pas mal de concurrents français, hein, mais il y avait une pilote, Audrey Rossa. Il y avait un autre pilote francophone. C'est clair. À un moment donné, on se retrouve souvent. Et puis, dans les galères aussi, qu'on se perd un peu. Donc, il y a des amitiés quand même assez fortes qui se créent.
Est-ce qu'il y a aussi des femmes alors qui participent, que ce soit à moto, voiture ou camion au Dakar?
Oui, alors les femmes sont représentées. Et puis, il y a vraiment des gens d'une grande expérience, de grande qualité sportive, en fait, au niveau féminin. Par contre, ouais, il y en a pas beaucoup quand même. Hein. C'est un sport, il est assez particulier, hein. Dans le sport mécanique. Il y a assez peu de femmes, mais il y en a. Et puis j'ai beaucoup de respect vis-à-vis d'elles parce que bon, il y en a quelques-unes qui sont fortes. Hein, c'est sûr. Hein.
Ouais. Ça doit être un peu la technique de drague, ça, parce que quand la madame est à côté de sa moto qui est en panne, ben, faut aller la ponter. Ah, oh, j'ai les câbles.
Je pense qu'elle veut les avoir aussi.
Je peux vous connecter, madame.
L'air de jeu, rediffusion.
Nous sommes toujours avec Nicolas Monin, pilote neuchâtelois de rallye moto, aux origines jurassiennes, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin pour parler de son expérience, hein, dans ce vaste sport qu'est le rallye. Vous en avez à votre actif une dizaine. Et là, le dernier en date, c'est le fameux Dakar. Alors, vous nous avez ramené des objets. C'est le casque que vous portiez.
Le
rouge. Il est tout beau propre, hein.
Oui, en fait, c'est le deuxième casque parce qu'on en prend toujours deux avec. Le premier, il est encore en nettoyage.
Après, il y a la veste.
La veste, c'est important au niveau équipement. Il fait froid le matin et puis dans la journée, on a une activité en fait où il faut qu'on puisse aérer aussi. Donc, on peut démonter les manches, par exemple, voilà.
Et votre numéro de dossard, le 116, c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce qu'on vous l'attribue?
On me l'attribue, mais c'est vrai qu'on pourrait demander, on pourrait demander un numéro, mais ça ne me vient pas trop à l'esprit. Je préfère laisser l'organisateur me le donner.
Et puis ici, alors je ne sais pas ce que c'est, on dirait une lance pour les pompiers, mais une mini-lance. C'est un peu le même tissu, hein.
Tout à fait. Ouais.
C'est quoi exactement?
Alors en fait, je l'ai pris pourquoi? Parce que en fait, j'ai mon surnom de motard en fait est sumo.
Vous faites du sumo aussi?
Pendant 2 ans du sumo. J'ai participé à 2 championnats du monde de sumo, 2 championnats d'Europe, dont une fois j'ai terminé 3e en fait. Voilà.
Oh, mais je croyais que les sumo ils étaient.
Oui, mais en mode amateur en fait, c'est avec des catégories de poids. Mm-hmm. Vu que je suis judoka en fait, 2e dan, j'ai une expérience assez conséquente. D'ailleurs, je salue mes amis judoka.
On profite pour saluer tous les judokas.
Voilà, notamment ceux de Courtaillot. Et puis, j'ai fait du sumo pendant 2 ans avec des résultats aussi. Bon, c'est pas une expérience qui a duré parce que c'est assez particulier. Il fallait s'entraîner à Genève, c'était assez compliqué.
Et puis, c'est quoi alors ça?
En fait, ça, c'est la ceinture qu'on met. Donc, je ne vais pas vous la mettre là parce qu'il faut être nu pour le poser.
D'accord.
Donc, vous imaginez. Vous vous mummifié, en
voilà,
fait.
C'est
ça,
voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ah, on l'enroule, on démarre en bas, et voilà, puis on l'enroule autour de la taille, voilà.
Oui, exact. Oui, oui,
ah, oui. En fait, on vient de comprendre que les sumos, ils sont pas si gros que ça, c'est les habits qui mettent.
Non, non, mais ils sont quand même,
Non, non, ils sont conséquents. Moi, j'ai un ami américain qui fait 300 kilos, que j'ai connu dans le monde du sumo, c'est un peu particulier quand même, hein.
D'accord, ouais. Ah ouais, quand même.
Oui, oui, quand même.
D'accord, en tout cas, c'est joli. Vous voulez pas essayer, Florian, de déguiser en sumo?
Je crois que je suis déjà bien assez sumoté comme ça.
L'air de jeu, rediffusion.
Nous sommes avec le pilote neuchâtelois rallye de moto, aux origines jurassiennes. On aime bien, hein, parce que vous êtes jurassien à la base.
Oui, j'ai ça dans le sang, c'est sûr. Et puis, c'est un des débiles.
Ouais, exactement.
Vous prenez la Saint-Martin avec quand vous allez au Dakar. La cochonade.
Non, je prends beaucoup de choses, mais quand même pas ça.
Ah, saucisson quand même.
Je dirais pas tout.
Alors, revenons-en justement à ce mannequin qui est à côté de moi. Alors, il y a le casque, il y a des lunettes, il a un joli t-shirt. Alors, expliquez-nous ce que c'est ce casque en particulier.
Moi, j'ai toujours mis en avant le fait de pouvoir faire de la recherche et développement en lien avec le Rallye Raid, notamment le Dakar. Donc, on a... j'ai une collaboration avec la HEARC de Neuchâtel, où il y a des étudiants qui ont fait des travaux de bachelor, en fait, sur des thèmes liés au Rallye Raid. C'est des projets, en fait, qu'on essaie de continuer à développer.
Et ce sera pourquoi ces projets?
Alors, c'est tout des choses qui sont liées, en fait, à la sécurité, en fait, au niveau rallye, qui peuvent se développer aussi pour d'autres activités, d'ailleurs, hein, mais le but, c'est le rallye au niveau développement. Donc, il y a un projet de casque qui a été développé en 2020 avec une étudiante qui était liée en fait avec la navigation, vu que le pilote moto doit autant piloter que naviguer. Et puis là, dans la navigation, en fait, vous baissez souvent le regard en fait, sur vos appareillages. Quand vous roulez à plus de 100 km/h, il faut faire attention. Il y a beaucoup de chutes en fait, qui sont liées en fait, à cette problématique-là. Donc, on voulait ramener des informations de navigation au niveau du casque, notamment, ou plus haut pour éviter de quitter la piste du regard, le moins possible. Donc, il y a eu un travail qui était plus lié à l'ergonomie, design et ergonomie. Bon, le casque, c'est un prototype très brut, hein, en fait, dans le développement. Maintenant, je vais avoir des contacts avec la maison qui gère les GPS et les systèmes de navigation sur le Dakar et sur d'autres rallyes pour voir ce qu'on peut faire au niveau continuité dans le développement, toujours avec la HEARC. Et puis l'autre élément, c'est un maillot connecté, on va dire, donc qui mesure des constantes vitales, donc comme les battements du cœur, la respiration. Au niveau battement du cœur, ça fait vraiment un graphique ECG, donc quelque chose qui est proche en fait de ce qui se passe aussi dans les hôpitaux en fait. Hein, donc c'est de très haute qualité. Ce maillot, en fait, il est connecté pourquoi ? Parce qu'en fait, on doit pouvoir envoyer des alarmes en cas de crash et puis pour donner les constantes vitales en fait au niveau du PC course pour voir directement en fait les informations de l'état du pilote. C'est un élément en fait qu'on imagine aussi être utilisé dans la course à pied ou dans le VTT. Quand vous êtes seul, vous tombez, ça envoie une alerte et puis ça donne aussi des informations sur les constantes vitales de la personne si elle est inanimée, en fait, à un endroit où personne ne le voit.
Et c'est connecté comment avec le central ?
Alors, l'idée, en fait, pour le Rallye Raid, c'est assez spécifique parce que la connexion, elle est plutôt par satellite. Donc, on a un appareillage satellitaire sur les motos. Donc, c'est de pouvoir faire ce lien-là. On s'imagine par rapport aux autres sports, en fait, qui seraient plutôt liés, en fait, au téléphone mobile, qui puissent, en fait, après connecter avec une centrale d'alerte, par exemple.
Pas de 4G, hein, dans le Sahara.
Non, je l'ai essayé, mais effectivement, quand je suis tombé en panne en plein désert... Ça passait pas.
Et qu'est-ce qu'en pensent les responsables ou les organisateurs du Dakar autres rallyes ?
Ils sont très très intéressés que des pilotes comme moi ont des idées et puis qu'il y ait du développement sérieux qui se fasse derrière. On a travaillé en fait sur le casque notamment avec David Castera, le directeur du Dakar, avec les Peter Hansel, monsieur et madame Peter Hansel, le fameux monsieur Dakar, 14 fois vainqueur. Des choses très très intéressantes aussi en lien avec ses études, ses contacts. Et puis très intéressés, ces gens sont très intéressés en fait du développement que je peux avoir avec la HEARC sur ces projets. Voilà, il y a du boulot.
Est-ce qu'il y a eu d'autres propositions? Est-ce qu'il y a aussi d'autres projets, un peu comme le vôtre, ou c'est le seul, l'unique?
Je veux pas dire que je suis seul et unique, parce que dans ce monde-là, en fait, il y a quand même pas mal de recherches. Maintenant, tout ce qui est au niveau des véhicules hybrides qui se produisent et puis qui s'essayent à la course, il y a aussi à différents niveaux, en fait, de la recherche qui se fait grâce au sport mécanique. C'est ce qui peut permettre de développer, en fait, l'avenir, autant au niveau sécurité que sur les aspects écologiques, environnementaux. Et puis, non, il y a des choses qui se font. Alors, en tant que pilote moto, je suis un peu, c'est vrai, un petit cas à part, effectivement.
L'ère de jeu, rediffusion.
Nous sommes toujours avec Nicolas Menin, qui est donc pilote rallye de moto. Vous nous avez parlé donc de ce prototype. Hein. Est-ce que lors d'un prochain rallye, vous allez pouvoir tester ce projet?
Alors le maillot est en bonne voie, en fait, de test pour un prototype numéro 2. Il y a beaucoup à faire, parce qu'il y a cette relation, en fait, avec les entreprises qui gèrent les appareillages, en fait, hein, au niveau navigation notamment. Sur le casque, il y a encore pas mal de boulot, en fait, sur la partie apprentissage, enfin le développement. Donc on a deux projets qui sont séparés, on essaie de les avancer en même temps, mais voilà, c'est tout un travail conséquent.
Et je pense que ça doit être très intéressant pour les jeunes que de collaborer à ce projet.
Ben, c'était une des idées, en fait, aussi, c'est de pouvoir partager. Je suis ingénieur aussi de formation, et puis de pouvoir faire des travaux, en fait, qui sont en lien avec quelque chose comme la passion, en fait, de la moto, par exemple. Donc, et puis des cas concrets qui viennent, en fait, avec des prototypes qui sont essayés sur des courses. Effectivement, on a trouvé ça intéressant. Et puis la possibilité de redonner, en fait, de son expérience, et puis de collaborer, en fait, avec des jeunes, c'était très, très, très intéressant.
Et parce que finalement, c'est vrai que si on regarde dans les rallyes en moto, en voiture ou en camion, il y a des copilotes, mais les motards, ils sont un petit peu désavantagés à ce point de vue-là.
Ouais, effectivement, on n'a pas... Il faut savoir piloter et naviguer. Moi, j'aime bien naviguer, donc j'en fais un peu ma spécialité. C'est pour ça que j'aime le rallye raid. Et puis, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir faire les deux. C'est pas toujours simple.
Bonjour Mylène, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, et vous?
Alors, vous profitez de ce beau temps pour vous balader. Vous êtes de quel côté?
Corteilleau.
Et vous avez quand même pu nous écouter, vous avez pu envoyer une photo pour notre défi. Alors, expliquez-nous quelle est la photo que vous avez envoyée pour notre défi du jour.
Alors, c'est une photo quand on se promenait dans le Tyrol.
Oh, les couleurs! Elles sont magnifiques. Et bien voilà, c'est ça qui pour vous, Nicolas, représente, voilà, cette liberté, les espaces.
Exactement, en moto, il faut préciser. Donc le fait d'être immergé, en fait, quand on fait de la moto dans des paysages qui sont juste grandioses, que ce soit en Europe ou en rallye, hein, mais c'est des sensations où on a les poils qui s'hérissent sur les bras en suivant ce qu'on traverse. Donc on profite énormément en moto des paysages. Donc c'est ça qui est très parlant.
Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a ce ressenti, on fait qu'un avec la nature, on a le temps, en roulant doucement, d'apprécier tout ça. C'est quel genre de moto, Mylène?
Un trail, un gros trail.
Et d'accord. C'est quoi la particularité?
Honda Varadero.
Et c'est quoi la particularité d'une telle moto, Nicolas?
En fait, c'est une moto assez, assez facile, puis qui passe partout aussi. Donc, position assez redressée en tant que pilote. Justement, vraiment une moto pour profiter, en fait, aussi du paysage et tout. Vraiment une belle moto, très pratique pour voyager.
Mylène, est-ce que c'est vous qui conduisez ou vous êtes que passagère?
Sur celle-là, je suis passagère parce que je suis un peu petite.
Mais vous êtes comme moi, voilà. Moi, c'est pour ça que je n'ai jamais pu conduire une moto, parce que comme je ne suis pas très grande, pour tenir la moto, c'est pas évident quand même.
Oui, il y en a d'autres qui sont plus basses et puis qu'on peut conduire.
Oui, mais c'est quand même pas évident, c'est lourd. Il faut quand même bien pouvoir poser les deux pieds par terre. Enfin voilà, en tout cas, vous faites toujours de la moto, j'imagine.
Oh oui,
ça fait 40 ans qu'on en fait, puis on n'est pas prêt d'arrêter.
Eh mais quelle belle passion vous avez. En tout cas, on vous remercie pour cette magnifique photo à découvrir sur notre galerie photo rtn.ch cet après-midi. Vous remportez cette carte Manor et on vous souhaite une belle suite de journée, de belles balades avec le printemps qui arrive. Profitez encore de cette passion de la moto. On vous embrasse, Mylène, et bon dimanche.
Ça fait pareil à tout le monde. Bon dimanche.
Et puis, bon cerveau-là si vous allez en forêt. À bientôt.
Bon dimanche.
L'air de jeu, rediffusion.
C'est quoi que vous mangez, Nicolas, quand vous revenez après un Paris-Dakar, que vous êtes à la maison, vous êtes de retour en Suisse. Une bonne fondue?
Oui. Clairement, la fondue, la raclette, c'est quelque chose. Alors, on saute volontiers dans ces délires-là.
Alors, le sable que vous avez devant vous, c'est du sable qui est de cette année ou...
C'est quoi ça que tu veux?
J'en ramène chaque année du sable, que ce soit du sable marocain ou autre. Attendez, je vous en donne. Bien sûr, quand j'ai des étapes difficiles, donc dans les dunes, j'en ramène encore plus. Donc en fait, c'est quasiment du sable que j'ai dans les bottes.
Ouais.
Bon, en lavant les chaussettes de moto, on arrive encore à sortir un peu. Ouais, non, c'est quelque chose qui traîne, que je traîne tout le temps. Alors, moi, j'ai du sable.
À défaut de mettre les pieds dans le sable, ben voilà, je mets mes petits doigts dans le sable. Ah, ça fait du bien de retrouver du sable.
Oui, j'en avais ramené aussi, bien sûr, d'Amérique du Sud aussi. Donc, c'est une petite particularité, c'est assez sympa.
Quelles sont vos prochaines échéances, Nicolas Monin? Est-ce que vous avez envie de repartir, de vous relancer dans un rallye?
Ah oui, tout à fait. C'est une passion qui me cheville au corps. Et puis, je prends un énorme plaisir, en fait, à rouler en rallye raid. C'est toujours des aventures avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'efforts. C'est toujours des défis. J'ai monté une équipe qui s'appelle le Edelweiss Racing. Et puis, je vais partir avec un jeune Neuchâtelois sur une course en octobre. L'idée, c'est de le former dans le domaine, c'est de pouvoir partager des expériences. Et puis, c'est clair, ça sera très, très intéressant pour lui, tout comme pour moi, en fait. Et puis, on aura normalement, je pense, notre propre team, en fait, au niveau assistance. Donc, ça va vraiment être cool.
Alors, c'est quoi ce Edelweiss Racing?
C'est un team plutôt sous le milieu moto. En fait, il y a plusieurs pilotes. Il y a des gens qui roulent aussi sur circuit. Il y a les Niculescu, des gens qui sont d'origine en fait roumaine, mais qui sont des vrais Neuchâtelois depuis bien longtemps. Il y a les Constantin aussi. En fait, c'est quelque chose de très ouvert en fait au niveau sport mécanique ou sport d'aventure. Donc, c'est quelque chose de très open où on peut partir aussi sur de la voiture aussi, hein. Mais pour l'instant on est concentré sur la moto, bien sûr on fait profiter l'expérience que j'ai au niveau rallye raid, et puis on a un local du côté de Courcelles. C'est vraiment quelque chose de très sympa. L'histoire aussi, c'est de réunir les forces, autant au niveau expérience que sur les aspects en fait après recherche de finances ou ce genre de choses.
Et qu'est-ce que vous organisez au long de l'année?
Alors bon, c'est quelque chose où on s'organise pour ce qui est donc tout ce qui est aspect entraînement notamment. On est ouvert. Hein. J'ai aussi des gens qui sont me demandé en fait à partager des expériences de pilotage aussi. Par rapport à des gens qui partent aussi un peu à l'aventure. C'est plusieurs choses.
Alors hors antenne, on en a parlé. Il y a aussi une aventure qu'on partage, que vous aimez regarder, c'est Koh-Lanta. Ouais. Alors, à quand une édition de Koh-Lanta pour Nicolas Monin?
C'est vrai que des fois, ça titille comme ça, mais je ne pense pas.
C'est quoi qui vous retient?
S'exposer pareillement, c'est quand même assez délicat, je trouve. Je pense que c'est assez particulier de s'exposer autant. Hein. Au niveau émission, de la télé-réalité, c'est pas ce que je fais moi en tant que sportif. Mais c'est vrai que c'est
vous faites la réalité dans la télé.
Oui. Mais les épreuves, tout ça, c'est quelque chose.
Ah ouais, ça parle, non? Mais il y a aussi un des aspects psychologiques en fait dans cette émission qui est juste prenant. Donc j'aime bien suivre. Effectivement, je suis très peu devant la télévision, mais je fais une exception avec Koh-Lanta.
Voilà, ben écoutez, pourquoi pas.
On a lancé l'appel aux gens de Dakar. Préparez le totem, les gars.
En tout cas, l'année prochaine, c'est reparti pour vous pour une édition 2023 du Dakar.
C'est pas à l'heure du jour. Là, maintenant, on part sur une course en octobre avec le pilote neuchâtelois, le jeune, comme je n'ai parlé avant. Et puis, en fait, on verra si on a...
Et les finances aussi, parce que ça, j'imagine que voilà, c'est toujours le nerf.
C'est assez particulier, assez difficile dans ce milieu-là. Donc, ça fait partie des émotions en fait que j'ai de participer à un Dakar ou à un rallye. C'est que tous les efforts que je consens en fait pour y arriver, j'ai des émotions très particulières quand j'arrive à l'arrivée.
Ouais. En tout cas, Nicolas, merci beaucoup d'être venu partager votre passion. C'était très intéressant cette émission ce matin. On en a appris beaucoup. Hein,
exactement.
Parce que on voit ce qu'on voit à la télé, mais on le vit pas. Hein.
Exactement. Ouais,
merci Florian.
En tout cas, merci beaucoup. Et puis, la galerie photo, c'est cet après-midi sur rtn.ch.
Mais comme elle a bien parlé, là, je vais faire quelque chose. Là, vous pouvez continuer à parler, Claire.
Hein. Qu'est-ce qu'il va faire
voilà. C'est comme si vous applaudissez, en fait.
Ah Ah, puis je pourrais peut-être prendre le voilà. Hop là, je suis en train de tout démonter, là.
Pour retourner au locle, Claire.
Oui, par où vais-je passer voilà. Alors, tac, 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 là, vous tournez à droite, vous allez tout droit.
Vous sortez de la zone digitalisée. Voilà, je vais y arriver. C'est compliqué.
C'était quoi?
C'était les anciennes versions du GPS quand on n'avait plus la route. Le GPS cherchait la route, en fait. Des fois, ça plante et ça bug. La semaine prochaine, Claire.
Alors, la semaine prochaine, on va prendre de la hauteur. Et pour notre premier dimanche du mois de mars, on va recevoir un jeune garçon. Il a 15 ans. Il s'agit de Ethan Duvoisin. Et il viendra nous parler de sa passion. Les pilotes de ballon à air chaud. C'est sa passion et c'est l'un des plus jeunes pilotes.
On lui demandera s'il est resté une fois coincé sur le lac parce que vent zéro, on monte, on descend, on monte, on descend. Puis quand il n'y a plus de gaz, ben on appelle la police pour se faire remorquer. Et
donc,
c'est déjà arrivé.
C'est la semaine prochaine, Ethan Duvoisin. Donc
des bisous.
Et bisous, puis, bon voilà, dimanche.
À dimanche prochain.